Pronto, pronto. C'est Cédric Avel qui vous accueille en ce mardi 23 avril pour le 80e épisode de la saison 2 de Pronto Calcio. On va parler bien sûr du derby de Milan, du titre de l'Inter, de la deuxième étoile. On va parler un petit peu aussi plus globalement de la 33e journée de Serie A. Et autour de la table virtuelle de Pronto Calcio en ce mardi matin, Antoine Aiello. Salut Anto.
Salut Cédric.
Comment vas-tu Anto?
Ça va. Hein. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit certains me comprendront, après Istanbul, il y a eu Athènes. C'est ce que je me dis.
D'accord. Raphaël Gauthier est aussi avec nous. Salut Raph.
Salut à tous.
Est-ce que tu as une petite citation pour nous, toi aussi?
Non, on va laisser cette primeur à Antoine. Mais. Que dire, on en reparlera après, mais bon, le titre de l'Inter, c'est pas aujourd'hui qui s'est décidé, hein, ni hier soir. Donc, je vais pas dire que je suis absolument déçu ce matin plus que les autres jours.
D'ailleurs, on y reviendra, Simone Inzaghi l'a fixé, on va dire, à la victoire de Lecce. Il y a déjà un bon mois, donc effectivement, on aura l'occasion d'y revenir sûrement parmi nos débats. Également avec nous, Nicolas Wagner. Salut Nicolas.
Salut Cédric, ciao a tutti.
Comment vas-tu de ton côté?
Ça va, sous le soleil, pour une fois, donc ça va.
C'est vrai, sous le soleil de Normandie, comme quoi tout
oui,
arrive.
C'est rare, on en profite.
Et aujourd'hui, on va même savoir quel temps il fait en Suisse, puisque nous avons un invité, nous avons la chance d'avoir Daniel Romano, journaliste pour le groupe de télé suisse Blue Sport, et qui commente les grosses affiches européennes, dont la Serie A, et dont hier soir, ce match entre Milan et l'Inter. Bonjour, Daniel.
Salut à tous. Alors, chez moi, il neige, un 23 avril, il neige, ça fait un peu cliché, mais il neige pas toujours en Suisse, la neige est arrivée en retard cette année.
Ah oui, donc c'était pas des rumeurs, parce qu'effectivement, j'avais lu qu'en Suisse, et même dans le nord de l'Italie, il risque d'avoir un petit peu de neige, donc c'est le cas, il neige.
Oui, alors ouais, il neige effectivement aussi dans le nord de l'Italie, absolument.
Bon, ben voilà, ben, merci pour ce petit point météo, merci surtout d'avoir accepté notre invitation, c'est vraiment très gentil. Alors, ben, on va commencer tout de suite, forcément. Alors, on a décalé le podcast débrief de la journée de Serie A du lundi au mardi, puisque l'affiche, une fois n'est pas coutume, de cette journée était le lundi soir. Vous en avez déjà parlé, raison de calendrier principalement, la Milan avait demandé que le match soit décalé du dimanche au lundi, puisqu'ils jouaient le jeudi en Europa League. La demande avait été acceptée, avait été aussi poussé par les autorités, par la préfecture de Milan, puisque match le dimanche soir en fin de salon du mobile, la Design Week de Milan qui crée déjà pas mal de choses à gérer au niveau sécurité. Donc voilà, match en ce lundi soir, ça pouvait être le match du titre, et ça a été le match du titre. Donc avec ce succès 2-1, ben, je vais commencer avec toi Daniel. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? On a parlé depuis pas mal de temps, hein, quasiment un mois dans les médias italiens, que ce match pouvait être le titre. Après chaque journée, il y avait le décompte, si l'Inter fait tel parcours, si Milan fait tel parcours, finalement, mais ça s'est produit, on va dire, pour les Delazzurri, comme dans un film, en quelque sorte.
Oui, si Netflix avait choisi de faire une série, ça aurait été le scénario idéal. Le scénario, t'aurais pu que écrire, et finalement, bah, ça s'est avéré être le plus beau scénario. Parce que c'était jamais arrivé avant, parce que jamais l'Inter ou le Milan n'avaient gagné un titre lors d'un derby della Madonnina, et en plus c'est le titre de la deuxième étoile, donc c'est pour ça que tout semblait écrit d'avance, et ça ne pouvait pas se terminer autrement en fait. Personne, je pense que personne n'avait imaginé une autre fin hier soir. J'ai entendu une citation tout à l'heure, moi la mienne ce serait... La seule chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur de l'échec. C'est une citation très connue de Paolo Coelho dans L'Alchimiste. Et moi, j'ai vu un Milan qui a eu peur de perdre de la première à la dernière minute. Et je trouve ça très, très dommage.
C'est vrai qu'on a l'impression que l'Inter a eu peur peut-être 5 minutes après le but du Milan. On a senti l'équipe sûrement être un petit peu rattrapée par la réalité, peut-être le fait de voir ce titre être là et puis peut-être pouvoir échapper dans des moments, mais pour le reste, c'est vrai que l'Inter a semblé plus sereine sur ce match, Daniel.
Même pas. Moi, j'ai alors pas du tout ressenti de la peur chez l'équipe de Simone Inzaghi. J'avais juste l'impression que c'était. On peut dire des gros mots dans ce podcast?
Oui.
Ouais, alors j'avais vraiment juste l'impression que c'était ah merde, on voulait finir propre sans encaisser de but. Et voilà, c'est bête de prendre ce goal-là. Il y a de nouveau Yann Sommer qui a failli faire un quatrième miracle là-dessus. Et j'ai plus l'impression que ça les a embêtés de ne pas avoir fait un autre blanchissage. Mais j'ai senti aucune peur, aucun doute, aucun moment où tu te dis ils vont se faire rejoindre parce que ce but, il arrive un peu aussi contre le, pas contre le cours du jeu. C'est un but qui arrive de nulle part. Et j'ai plus ressenti ça.
Alors, je vais faire un petit tour de table pour avoir un petit peu les avis de tout le monde. Raphaël, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Daniel? C'est vrai qu'on a vu une équipe de l'AC Milan, craintive, on l'a vu dès la composition d'équipe, ce sort de, je ne sais même pas comment on peut l'appeler, 5-4-1, 3-4-2-1, enfin un peu comme on veut. On avait Moussa un peu dans un rôle hybride de piston, Calabria, moitié milieu, moitié défenseur. Enfin, c'était un peu bizarre, surtout Léao seul devant, qui est la principale arme de l'AC Milan, et d'ailleurs, c'est quasiment le seul qui a créé du danger en première mi-temps. Mais c'est vrai que la composition d'équipe déjà donnait un petit peu cette sensation craintive. Ça m'a rappelé le derby d'ailleurs l'an dernier perdu 1 à 0, où pareil, Pioli avait mis une défense à 5 et n'avait perdu que 1 à 0, mais ça n'a rien proposé.
Totalement d'accord avec Daniel. Milan a joué comme maintenant on est habitué dans les derbies, avec la peur. L'Inter a joué comme on est maintenant habitué dans les derbies, avec conviction, avec une envie de tout manger. Et c'est ce qu'ils font depuis maintenant 6 matchs. C'est très compliqué à gérer quand tu es supporter du Milan, parce que, alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais maintenant, en tout cas, c'est mon cas. En tant que supporter du Milan, j'appréhende les derbies, mais pas en me disant, ah, je suis excité parce que peut-être que ça va gagner. Je me dis, comment Milan va faire pour encore perdre et ne pas apprendre des dernières défaites? Et c'est ce qui se passe maintenant. Alors, j'espère que ça va changer un jour, parce que toutes les séries ont une fin, mais ça fait plusieurs matchs. Ça fait 2 ans maintenant que tu joues des matchs en quasiment sachant comment ça va se terminer. Hier, Pioli veut inventer des choses. Alors peut-être que s'il invente rien, on va lui reprocher de ne pas avoir inventé quelque chose pour contrer l'Inter et Inzaghi. Mais hier, il invente tellement des choses qui sont bizarres. J'ai la compo sous les yeux, j'ai regardé le match hier. Je suis un peu fatigué parce que ça n'a aucun sens. Mettre Rafa tout seul devant alors que tu sais qu'en face, ils ont 3 Golgotes en défense centrale qui vont le bouffer. Mettre Pulisic sur le côté gauche alors qu'on sait qu'il est bien meilleur à droite. Mettre Musa ailier droit pour contrer soi-disant Di Marco. Bref. Ça n'a pas vraiment de sens. J'ai eu vraiment l'impression que moi, Pioli, il a fait ça juste pour pas qu'on lui reproche de ne pas avoir tenté quoi que ce soit. Mais au final, c'est là où Inzaghi, pour moi, est très fort, en tout cas dans les derbies. C'est parce qu'avec le même 11, il arrive à jouer de manière mais facile pour contrer Milan. Avec les mêmes joueurs, je veux dire, Pioli, il aurait pu bosser ce derby avec les 11 mêmes joueurs, réussissant à faire déjouer Inzaghi par l'animation, et pas en changeant de joueur, et pas en changeant de composition, de système, comme l'année dernière, il passe à 5. À la fin, tu perds à chaque fois. C'est assez usant. Et comme l'a dit Daniel très justement, pour moi, l'Inter a jamais tremblé hier. Jamais, même après le but de Tomori. Oui, Milan a poussé. Alors oui, Sommer a fait des belles parades. Et Milan a plus de possessions et plus de tirs que l'Inter. Et pour tous ceux qui ont regardé le match hier, je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Pour moi, l'Inter mérite la victoire et n'a jamais tremblé dans le derby.
Surtout qu'en première période, il y a deux grosses occasions de l'Inter. Il y a Lautaro et Thuram qui ratent des grosses opportunités. Donc c'est vrai que ça aurait pu déjà créer une
Bien
première
sûr, bien
différence.
sûr.
Toi, Antoine, ce derby, et puis pour prolonger l'argumentaire Milan, puis ensuite on reviendra sur l'Inter, mais est-ce que tu rejoins Raphaël là-dessus? Est-ce que tu déplores que Pioli, on a l'impression que tu étais là pour ne pas perdre et donc pour ne pas donner le titre à l'Inter ce jour-là? C'était un petit peu le plan, son seul plan, c'était ça, en gros, faire match nul et repousser le titre de l'Inter d'une semaine, non?
Oui, enfin, c'était le plan aussi, je pense, pour arrêter l'hémorragie. Mais j'ai pas envie de tomber sur Pioli sur ce match-là parce que je pense que déjà tout le monde le fait déjà assez et tout le monde le faisait même déjà avant les derbies parce que faut quand même. C'est pas le débat forcément du jour. On doit faire un podcast avec Raphaël. Ils sont spoil un petit peu, mais quand je vois déjà les camions de merde qui se mangent depuis des mois, alors que mine de rien, si on regarde en dehors du derby, on parle du derby, mais. Il y a quand même des bons résultats et que je parle même depuis 4 jours de la presse nauséabonde qui le charge non-stop. Alors qu'il y a d'autres entraîneurs en Serie A qui ont des résultats pourris et qui méritent beaucoup plus. Je rentre pas dans un complotiste ambiant, mais bon, je me dis quand même que Pioli, ça arrangerait bien beaucoup de gens qui partent. Moi, j'aurais plutôt envie de parler des joueurs parce qu'à un moment donné, moi, je sais pas, je joue au foot de manière très amateuriale et j'ai un niveau plus que modeste. Hein, et moi, je sais pas, moi, je joue contre les mêmes types et je me mange 5 gifles d'affilée en 1 an et demi, à la 6e fois. J'ai presque plus trouvé plus de plaisir quand Théo et Calabria ont pris les cartons rouges parce qu'au moins, ils se font pas marcher dessus et au moins, ils montrent un peu de colère parce que moi, je comprends pas comment tes joueurs professionnels Et en plus, moi, je les ai de le dire, je pense pas intrinsèquement que l'équipe de l'Inter soit si forte à côté du Milan. Je pense qu'ils ont très, on en parlera après, mais ils ont, je pense, surperformé en début de saison et ils ont bien fait.
Et
Mais
c'est
ça prouve.
dommage que cette révolte n'arrive qu'à la 93e, Antoine. Moi, je suis d'accord avec toi.
Je dis pas l'inverse, mais ça, c'est la faute des joueurs, parce qu'à un moment, Pioli, il a bon dos. Je dis pas qu'il n'est pas responsable. Mais à un moment donné, quand tu es joueur de foot aussi, enfin, moi, je sais pas, moi, je te dis, j'aurais préféré qu'on termine à 8. Mais à un moment donné, mets des coups. Bats-toi, déchire-toi, casse-tout, quoi. Donc moi, peut-être que j'ai pas la même vision du foot qu'eux, peut-être que je sais pas si c'est parce qu'il y a un euro dans quelques semaines, mais j'en sais rien. Mais à un moment donné, moi quand Théo il met par terre Dumfries, là j'ai pris du plaisir. Vu que ça fait depuis 2 ans qu'il cherchait, je me dis voilà, au moins c'est un derby, ça c'est un derby. Tu lui rentres dans le lard. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Il y en a marre aussi de. Moi, c'est plutôt les joueurs qui me dégoûtent parce que je pense en plus que quand tu as un capitaine. Comme Calabria, qui pour moi est au niveau de Montolivo dans la honte des capitaines du Milan, qui ouvre sa bouche, ils ne gagneront pas contre nous, machin. À un moment donné, toi déjà, essaie déjà de faire un match correct, essaie déjà de faire un contrôle, et après, tu pourras après te dire que tu ne veux pas gagner, etc. Parce que si Moussa joue à droite, c'est parce qu'on n'est même pas capable de tenir Di Marco qui a éclos depuis 1 an. Enfin, à un moment donné, je pense que Pioli, il a bon dos. Quoi. On parle toujours de Pioli, de ses compositions, mais à un moment donné, les joueurs jouent. C'est aussi à eux de sortir un peu, on va dire le terme, leur couille. À un moment donné, je sais pas quand vous, je sais pas si vous jouez vous au foot, mais moi, quand je me fais ouvrir en deux sur les 15 années de derby, il y a 10 défaites. À un moment donné, les gars, je sais pas, c'est vous qui jouez au foot, non? Vous êtes la même équipe. C'est à vous de leur rentrer dedans. Moi, je répète, ils seront pas là pour la Juve, mais au moins, le capitaine et le vice-capitaine, donc Gabriel et Théo, au moins, ils leur ont mis deux beignes, et ça, c'est un derby. À un moment donné, je sais pas, qui montre un peu que ce sont des hommes. Ça commence un peu à bien faire, moi, cette histoire de derby. Et de Pioli, c'est à un moment donné, c'est eux qui jouent, c'est à eux aussi de montrer quand c'est pour aller négocier le salaire, ils sont tous présents. Donc bon, pas ça.
Mais d'ailleurs, c'est vrai que Pioli, on a l'impression que c'est un petit peu le fusible qui va servir un petit peu à tout le monde, aussi bien aux joueurs, mais aussi aux dirigeants, qui de leur côté disent, aussi avec certaines raisons, qu'ils ont quand même réalisé un bon mercato l'été dernier. Mais donc, tu le disais, les statistiques, ça fait donc 6e succès de suite de l'Inter dans le derby. Ça n'est jamais arrivé du côté Inter et ça est arrivé seulement 2 fois du côté Milan, et c'est des records, entre 1946 et 1948 et entre 1911 et 1913. Donc, pour montrer à quel point dans le foot moderne, la série faite par Inzaghi et ses hommes, c'est du jamais vu dans les derbies. Toi, Nicolas, alors tu avais assisté au derby aller. C'était un derby forcément différent ce lundi soir, puisqu'il y avait beaucoup plus la pression, parce que c'était un tout début de saison, puisque les calendriers désormais sont asymétriques au niveau des journées aller-retour. Donc y a une grosse distance entre septembre et avril, entre l'aller et le retour. Voilà, le derby aller, il n'y avait pas eu match en quelque sorte. Est-ce que pour toi, il y a eu toujours eu cette même différence hier ou pas?
Bah, déjà pour commencer, je vais aller dans le sens d'Anto. C'est vrai que Pioli a bon dos parce que par exemple sur le premier but, quand même pas normal qu'Acerbi se retrouve tout seul dans la surface et soit à 5 mètres pour tromper Maignan. Pareil pour l'occasion de Lautaro que tu parlais tout à l'heure. C'est un centre en retrait. Bon, il se craque complètement, mais pareil, il est complètement oublié par la défense. Donc effectivement. Au niveau de la composition d'équipe, hier, quand j'ai vu passer ça avec Guillaume Mbappé, je pensais que c'était plutôt une tactique de diversion et qu'il ferait pas cette composition-là. Donc j'ai été surpris quand même. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de choses qui sont aussi à reprocher aux joueurs du Milan. Et je suis d'accord aussi avec Raphaël. C'est dommage que les Milanais n'aient pas eu le sentiment de révolte qu'ils ont eu après le but de Tomori. Ils auraient dû attaquer le derby comme ça. Et pour le coup, non, j'ai pas vu vraiment de différence pour répondre à ta question avec le derby aller. Ça a été différent au niveau de la domination, mais ça a été vraiment la première mi-temps de l'Inter a été totalement maîtrisée. Il y a 2-0, non 1-0, je crois, c'est ça, à la mi-temps,
1-0,
1-0.
c'est ça.
Bon,
1-0, il y
1-0,
a...
mais bon, tu vois, j'avais même l'impression qu'il y avait 2-0 tellement l'Inter a joué dans un fauteuil cette première mi-temps. Ça s'est accentué après avec le deuxième but de Thuram
en deuxième mi-temps. Et voilà, moi je pense que si Milan avait attaqué le match avec la même détermination qu'à partir du but de Taomori, ça aurait été certainement un autre derby et un peu plus compliqué pour l'Inter.
Occhio qui a Thuram, prova Thuram, Thuram! Fa 2-0, non ci arriva Maignan, come è l'andata segna Thuram, quarto della ripresa, si accende, si mette in proprio, trova il destro e fa 2-0.
Daniel, toi, qu'est-ce que tu penses du côté Inter? C'est vrai que Raphaël le disait, Simone Inzaghi, là, c'est 11 joueurs. Il met ses 11 joueurs. Alors, il fait des variations, il fait des évolutions dans sa façon de jouer parfois dans les circuits. On voit depuis quelques semaines, Di Marco, qui a cette tendance à attaquer un petit peu de façon transversale pour finir dans la surface sans le ballon. Alors qu'avant, il ne faisait pas. Enfin, voilà, il fait des variations comme ça, mais il a ses 11 joueurs. Il surprend un peu au niveau de la compo. Et ce qui est assez remarquable de cette saison, c'est que. Il y a aussi eu peu de blessures, il a eu cette chance-là, qui est sûrement en mettre aussi avec le bon travail sûrement du staff médical. Mais voilà, sur Simone Inzaghi, sur sa gestion de la saison, donc qu'est-ce que tu en penses?
Alors, si tu me permets, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit jusque-là, mais très très rapidement. Sur Pioli et sur les joueurs, en fait, pour moi, je suis partagé. C'est vrai que c'est les joueurs qui vont sur le terrain, mais Pioli, il a aussi ses responsabilités dans le sens où on est sur un coach qui veut peut-être un peu trop inventer ou réinventer le foot par moment et il n'a pas choisi la simplicité. Moi, je trouve que quand tu utilises Calabria comme John Stones à City, ce n'est pas une bonne idée. Effectivement, je trouve que Calabria, c'est un joueur relativement limité. Ce n'est pas John Stones. Il ne va jamais pouvoir aller jouer au milieu comme il a essayé de le faire contre la Roma ou comme il a essayé de le faire par moment hier soir. C'est un joueur qui doit jouer à sa place et faut pas réinventer le foot, surtout quand tu veux pas perdre. Il y a aussi un problème psychologique, en fait, c'est évident. Si tu regardes le premier match contre la Roma, il y a un but encaissé après 17 minutes. Contre Sassuolo, il y a 2-0 après 10 minutes. Contre la Roma, au match retour, il y a deux buts en 22 minutes. Hier soir, il y a nouveau un but encaissé après 18 minutes et le Milan, il disparaît en fait. Après le premier but, à chaque fois, il disparaît, à part contre Sassuolo. Mais Sassuolo, c'est une équipe qui va probablement être reléguée. C'est un petit miracle que le Milan réussisse à faire 3-3 finalement. Donc finalement, je pense que sur le plan psychologique et sur le plan de la compo, même si c'est les joueurs qui vont sur le terrain, Pioli il y a aussi ses responsabilités, même si je trouve qu'effectivement, on lui met trop de fautes. Sur ta question concernant
Oui,
Inzaghi et
sur
concernant
Inzaghi,
Inter,
qui est un petit peu le contraire,
oui,
en fait, qui est un petit peu l'anti-Pioli là-dessus, parce que lui, il ne
absolument.
cherche pas forcément à faire le coup qui surprend, mais voilà, ça
Oui,
marche.
c'est pragmatique. C'est honnêtement, moi je trouve cette Inter formidable, spectaculaire. C'est la plus belle Inter de ces dernières années, peut-être de toute l'histoire, parce qu'il y a ce pragmatisme. Parce qu'en fait, on parlait de la possession tout à l'heure, on disait que le Milan avait la possession, mais c'est l'Inter qui laisse le Milan avoir la possession. Par moment, tu avais l'impression en première mi-temps qu'il pouvait faire de la possession, passer de gauche à droite, de droite à gauche pendant 5, 6, 7 minutes. Et il n'y aurait jamais eu une porte ouverte pour réussir à passer ce double rideau. C'est en fait l'Inter qui décidait où le Milan devait faire sa passe. Ça partait à gauche parce qu'il n'y avait pas de solution à droite et ça repartait à droite parce que finalement à gauche c'était fermé. L'Inter joue en fait pas contre ses adversaires, elle joue avec ses adversaires. Et ça, c'est Inzaghi qui l'a intronisé cet aspect-là. En fait, l'Inter fait toujours croire à ses adversaires depuis le début de la saison. Ça a failli marcher même contre l'Atlético. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, l'Inter choisit de jouer avec son adversaire un peu comme un chat avec une souris. Elle lui donne l'impression qu'elle va s'en sortir. Et puis au final, bah, elle va la rechercher, puis elle la mange toute crue. Et ça, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable de la part d'Inzaghi.
S'il y avait un joueur à mettre en symbole un peu de cette Inter 2023-2024, ce serait qui? Ce serait Lautaro, ce serait Çalhanoğlu, ce serait Acerbi qui marque après toutes les polémiques et qui met ce but important.
Oh, c'est une bonne question, ça. Bah, Lautaro, parce que c'est un peu plus ton scudetto pour l'importance qu'il a maintenant dans cette équipe, tous les buts qu'il a marqués, le fait que ce soit le capitaine. Mais moi, je te choisirais Sommer, je te choisirais une colonne vertébrale, en fait. Je te choisirais Sommer, je te mettrais. Ouais, bah, non, mais les trois au milieu, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, c'est aussi extraordinaire. Devant, Thuram. Tu vois, il y a peu de gens qui s'attendaient à une première saison aussi exceptionnelle. Lautaro, Di Marco, non mais enfin, c'est une question hyper compliquée. Je crois qu'on est encore là ce
Si je
soir.
te pose la question, en fait, c'est parce que tu le disais, c'est justement, c'est vrai que c'est peut-être la plus belle Inter qu'on ait vue, mais c'est pas la plus
Ouais.
forte. Il y a eu plus fort, celle de
C'est ça.
Trapattoni, pour ceux qui sont un peu plus âgés que nous, mais qui l'ont vraiment vécu. Il y a eu celle de
Oui.
Mourinho, qui était une équipe très très forte. Je viens vers toi, Nicolas, pour ça aussi. Mais voilà, celle de Mourinho aussi, qui sur le papier était beaucoup plus forte que l'Inter actuelle. Mais celle-ci, c'est plus le collectif qui est beau, en fait.
Pour moi, oui, t'as tout dit. Elle est magnifique à avoir joué. Moi, j'échange souvent avec des tifosi de la Juve, bah, qui se morfondent dans leur canapé, qui perdent 2 heures de leur vie à chaque fois que la Juve joue parce qu'il ne se passe jamais rien. Et là, en fait, tu as toujours un truc à raconter. La preuve, on est là en train de le faire dans ce podcast. Il y a tellement de trucs à raconter dans les préférences, dans les circuits préférentiels, dans les différentes manières d'aborder une rencontre, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Bah, tout est beau, quoi. Tout est beau et c'est formidable. Et quand je vois qu'il y a un Zielinski qui est prévu, un Taremi qui est prévu encore dans cette équipe, ben. Ouais, bonne chance à toutes les autres équipes de Serie A pour rattraper leur retard.
On verra si cette fois-ci, contrairement à au Scudetto 2021, si l'Inter arrivera à enchaîner cette fois-ci, il y aura stabilité cette fois-ci. Tu as annoncé les deux joueurs, d'ailleurs, ils ont été annoncés plus ou moins hier par Ausilio à la télé italienne, disant que voilà, les deux joueurs allaient signer effectivement Taremi et Zielinski. C'était fait que le reste du mercato serait calme, avec peu de départs et peu d'arrivées. Inzaghi qui va prolonger, donc c'est vrai qu'il y a une vraie stabilité, contrairement à il y a 3 ans. Nicolas, je ne vais pas te demander par rapport à Herrera, quand même, on ne va pas exagérer, on va arrêter la blague par rapport à l'âge, mais c'est vrai que quand on passe à celle de Trapattoni, quand on passe à celle de Mourinho, celle, on peut dire aussi, qui a beaucoup gagné, c'est celle de Mancini, première version, pas la deuxième version, hein, de Mancini, on va l'oublier celle-ci. Toi aussi, en suiveur un peu plus neutre du calcio, tu trouves que c'est la plus belle Inter de ces dernières années?
Oui, bah après Trapattoni, je disais oui tout à l'heure, mais c'était un peu plus pour la vanne parce que j'avais quand même à peine 10 ans, donc c'est compliqué de suivre pleinement cette équipe-là, mais c'était une très belle équipe. Et ouais, c'est vrai que les versions récentes, que ce soit Mancini, Mourinho, étaient aussi de très belles Inter, mais cette saison, c'est quand même, je trouve. L'apogée de déjà pour Mancini pour Inzaghi pardon, puisque c'était quand même attendu pour lui d'avoir le titre, et il a réussi depuis qu'il a été nommé à la tête de l'Inter à créer tout ça. En fait, il s'est arrivé par pièce. On se rappelle que l'année dernière il a été quand même pas loin de se faire virer. Et que finalement, il a réussi après à emmener l'équipe en finale de Champions League. Cette année, il réussit à amener la deuxième étoile pour l'Inter. Donc, forcément que ça compte et que son équipe est vraiment, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, je souscris totalement. C'est vraiment une équipe qui est très agréable à regarder jouer et qui a la capacité, comme il le disait, de faire déjouer les adversaires, en fait. Ils jouent très bien, mais ils ont aussi cette capacité à embêter les adversaires et à les priver de solutions.
Raphaël, toi là-dessus, bon, on l'a vu lors du derby, mais aussi de façon assez générale, c'est vrai que l'Inter a cette capacité. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est un grand débat, mais c'est vrai que voilà, il y a cette façon contrôle des matchs qui est assez remarquable, et tu l'as souvent signalé d'ailleurs dans les podcasts.
Oui, alors je vais peut-être, ça va peut-être faire polémique entre guillemets, mais bien entendu l'Inter mérite son titre. Bien entendu, pour moi, Inzaghi est un bon entraîneur parce qu'il fait jouer, il sait comment faire jouer ses joueurs et ses joueurs le lui rendent bien. Après, pour me faire un peu l'avocat du diable, est-ce qu'on pourrait pas, bien sûr, en tout cas l'Inter mérite son titre, c'est pas, ça va pas être mon point tout de suite. Est-ce qu'on peut pas aussi parler de un peu la faiblesse de la concurrence des grosses équipes qui devaient normalement être présentes, notamment du Napoli, de la Juve? Le Milan est là. Pour moi, Milan est là. Antoine l'a dit tout à l'heure, on est à plus de 2 points par match. Milan est là, etc. Naples et la Juve, ils auraient dû rendre la tâche normalement un peu plus dure pour l'Inter et pour Inzaghi. Et la Juve et Naples, ils sont à leur place, pas à cause de l'Inter, ils sont à leur place à cause d'eux-mêmes et à cause de leur faiblesse. Naples, je pense que, enfin, moi, depuis que je suis le foot, j'ai jamais vu un champion passer de la première place à sans doute la 8e ou 9e place. Et la Juve, on sait ce qu'elle est, puisqu'on regarde les matchs et que c'est un niveau absolument dramatique. Donc, Excusez, on parle. Enfin, moi, c'est juste, j'ai eu cette interprétation-là quand vous avez parlé de peut-être du meilleur Inter de l'histoire ou des 30 dernières années. C'est sans doute vrai. Faut aussi regarder en face peut-être une année où tout a bien roulé pour l'Inter. Bien sûr, ils ont été plus forts que les autres. Aussi, les autres ont été plus faibles qu'attendu. Et pour moi, ça a quand même un rôle à jouer.
Mais
Mais c'était
Antoine.
la même chose l'année passée. L'année passée, le Napoli, parce que c'est une anomalie, mais dans le bon sens du terme, il ne faut pas le prendre de manière péjorative, le Napoli qui gagne le Scudetto l'année passée, c'est aussi parce que derrière, ça n'a pas suivi, c'est le même schéma, c'est un gros départ, un départ canon, puis les équipes qui n'arrivent pas à suivre derrière, et c'est un petit peu le même schéma cette saison avec l'Inter. Puis, ouais, on a surtout dit que elle était belle, en fait, belle et efficace. La preuve, il y a une seule défaite contre Sassuolo. Et après, le reste, effectivement, là, je te rejoins, ça a pas suivi. Mais au départ de la saison, on s'attendait quand même à voir l'Inter devant. Quand tu vois le mercato avec des arrivées de Thuram, Pavard, Sommer, c'était que des joueurs potentiellement titulaires. Et puis, bah derrière, ça n'a pas été renforcé comme il faut dans toutes les autres équipes et elles étaient pas au niveau.
Je pense
Antoine,
qu'Antoine
qu'est-ce
est
que
de mon avis.
oui.
En tout cas, juste une petite phrase, mais je pense qu'Antoine va dire la même chose que moi. Quand on avait fait le podcast préparation de la saison cet été, on était très peu, et moi je ne l'avais pas fait d'ailleurs, à parler de l'Inter en tant que champion à venir.
Mais vous aviez parlé de qui?
La
De
Juve.
la Juve,
Ah, on
avec
pensait
beaucoup
tous
d'erreurs de
la
notre
Juve,
part.
oui, avec un seul match par semaine et puis l'effectif qu'ils avaient, c'était quand même le candidat naturel, mais bon, ils se sont craqués.
Qui met peut-être en doute notre expertise, mais bon.
Non,
Non,
mais
mais
moi,
c'est très difficile de faire des pronostics, évidemment, en début de saison, il peut se passer tellement de choses. Moi, je pense que vous changez les coachs, vous mettez Inzaghi à la Juve et puis Allegri à l'Inter. Peut-être que vous auriez eu raison.
ça a failli se faire en plus en 2021, ça. Donc, lorsqu'il y a eu cette valse des entraîneurs, Allegri était proche de l'Inter. Donc, mais vas-y, Anto, sur ce que disait Raphaël.
Le problème, c'est que après, je vais encore exciter les mecs sur X. Donc, faut que je me compense. Non, mais à un moment donné, d'accord, ils ont gagné machin. Bon, ils vont quand même faire beaucoup de points. Ils sont quand même sur une bonne série de points. Mais si on parle de comparaison avec d'autres champions, ils n'arriveront pas à faire ce qu'a fait la Juve de Conte, qui quand même a fait 33 ou 34 victoires, qui a éclaté tout le monde, etc. Et c'était pareil. Ils ne seront pas invaincus comme la Juve de Conte, par exemple, de 2012. On parle au niveau du jeu, désolé de dire ça, moi j'avais pris plus de plaisir l'an dernier avec le Napoli, où l'Inter a montré une domination défensive, ils n'ont pas été longtemps menés, ce que vous voulez, etc. Ça a duré 4 mois. Moi, désolé, depuis le mois de janvier, il y a comme une baisse de forme, et c'est normal, je ne remets pas ça en cause. Enfin, à un moment donné, moi je veux bien qu'on se paluche dans tous les sens sur l'Inter. Mais en Ligue des Champions, sur la saison, c'est un échec cette année. Il y a 2 ans, Inzaghi perd le Scudetto contre le Milan, parce que pareil, maintenant Inzaghi, c'est Guardiola aux cheveux longs. À un moment donné, les gars, enfin, il y a 2 ans, il récupère l'Inter, il se fait coiffer sur le poteau par le Milan de Pioli, Tokar et de Milan des petits joueurs. L'an dernier, il s'envoie 12 défaites en championnat, il arrive en finale des champions, bravo à lui, avec un tirage de peintre. Enfin, à un moment donné, enfin, moi je veux bien, hein, mais il y a aussi l'échec des autres, ils font un bon championnat, il n'y a pas de problème, ils méritent. Moi, je ne rentre pas dans ces débats-là. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut un peu. Faut pas non plus, enfin, c'est aussi l'échec d'autres équipes. La Juve, qui, comme on disait, elle a joué qu'un match par semaine et se mange aussi les deux suspensions qui sont justifiées pour les paris de Fagioli et Pogba, qui entre deux Pogmentaris s'envoient des doses de cheval de dopant. Enfin, à un moment donné, moi je suis d'accord, il n'y a pas de problème, ils méritent leur titre. Mais moi, je préfère aussi décorréler. Personne non plus n'attendait forcément que Milan gagne un titre de titre cette année. Ils étaient deuxièmes, ils sont à leur place. C'est aussi l'échec, comme disait Raphaël, du Napoli. Moi, en Italie, j'ai jamais vu ça, un champion, en dehors du classement, même être dans une situation au niveau du jeu, au niveau d'entraîneur, aussi chaotique que le Napoli. Fallait s'y attendre. Mais moi, on le verra jamais. Mais j'aurais bien voulu, par exemple, voir le Napoli de l'an dernier contre l'Inter de cette année. On aurait pu voir quelque chose de particulier. Il faut pas aussi oublier que plein de fois aussi, il y a eu d'autres champions qui ont fait même un peu moins de points l'Inter ou plus, qui avaient des deuxièmes à 90 points. Ça n'arrivera pas non plus cette année. Donc moi, il s'est mérité, bravo, qu'il fasse la fête. Par contre, oui, le plus grand champion, le machin. Non, non, les gars. À un moment donné, je veux bien, il y a l'euphorie, machin, mais il faut être un peu sérieux. C'est pas le plus grand. Moi, je me rappelle, par exemple, de l'Inter de Mancini, post-Calciopoli. Enfin, les gars, il y avait quand même
On
aussi quelque chose.
parlait de beauté justement. Non, on disait pas le plus fort.
Ouais,
On disait qu'au
on
niveau
parle
le
de
plus
beauté, ouais.
fort, On disait que celle de Mourinho, celle de Mancini, celle de Trapattoni était bien plus forte, sans problème. On disait la beauté, c'est plus un avis esthétique, une vision du football en fait. Parce que celle de
C'est ça, parce
Mancini,
que
c'était pas la folie dans le jeu, celle de
non,
Mancini, malgré tous les grands joueurs qu'il y avait.
c'est ça. L'Inter de Mancini en 2006 post-Calciopoli n'a aucun adversaire. N'a aucun adversaire
Non,
parce
mais
que le Milan
on parle
part
là.
à je ne sais pas combien de points de moins. La
8.
Juve n'est pas là. Voilà, donc il y a pas d'adversaire et
Bah
cette
attends, enfin,
équipe-là,
je suis
elle
pas
est aussi
d'accord avec
belle que
toi parce
celle
que
d'aujourd'hui.
si pour toi c'est pas avoir un adversaire, une équipe qui gagne des champions, cette année-là, c'est juste que bah ils ont peut-être pas été bons en championnat, mais on peut dire qu'ils n'avaient pas d'adversaire. À l'époque, il y avait encore des équipes qui avaient des gros effectifs. Les Milan, ils gagnent quand même des champions, ils gagnent pas des champions en jouant Benfica et Porto, hein. Ils s'envoient le Bayern, ils s'envoient Manchester, ils s'envoient Liverpool. Donc je pense pas qu'ils n'avaient pas d'adversaire. C'est juste que
Non, non, je
Mancini.
te parle de l'Italie. En Italie, on parlait. Ah, je pensais que tu
Oui,
parlais
non,
de
mais
la
ce que je veux
Serie A.
dire, c'est que l'effectif du Milan de l'époque, il était fort. La preuve,
Oui.
c'est un effectif qui a triomphé en Coupe d'Europe. Donc,
Oui, mais si tu pars à moins 8, tu peux pas vraiment, tu
non,
peux pas vraiment aller
je suis
chercher le
d'accord.
titre. C'est dans ce sens-là que je
Je
le
suis
disais.
d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais même dans les contenus de l'époque, Milan n'avait pas fait forcément faire un bon championnat. D'ailleurs, même avec l'effectif qu'ils avaient en 2008, ils ont fini cinquième derrière la Fiorentina. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux bien l'euphorie, il n'y a pas de problème qu'ils fêtent leur titre, il n'y a aucun souci. Après, la beauté, c'est. Oui, il y a des trucs qui sont sympas, il n'y a pas de problème. Il a Inzaghi avec son calcio liquido qui a été inventé avant, parce que par exemple, ce côté de changement de position, Guardiola l'a
C'est
déjà eu
vrai.
avant, même Gasperini. Mais bon, après, voilà, bref.
Non, mais
Mais il ne faut pas non plus.
après Inzaghi,
On...
justement, on le disait tout à l'heure par rapport à Pioli qui parfois essaie d'inventer. Inzaghi a jamais dit j'ai inventé ci ou j'ai inventé ça. Il essaie de faire progresser son groupe et d'importer des choses qu'il voit ailleurs.
Que
Et moi,
non.
je crois qu'il y a un homme dont on parle absolument pas. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Inzaghi, on parle beaucoup des
Paris.
joueurs, mais il y a un joueur un homme, pardon, pour moi, dont on parle très très peu, c'est Marotta.
Ah oui, bah
C'est
bien sûr.
Giuseppe Marotta, parce que tout à l'heure, on a parlé de la Juventus qui avait fait ce cycle avec tous ces Scudetti gagnants. Ce cycle-là, c'est lui qui l'a ouvert en prenant une Juventus qui était à la cave et qui a réussi à gagner tous ces Scudetti. C'est lui qui a façonné cette équipe. Et c'est encore lui, en quittant la Juve pour aller à l'Inter, qui en fait est vraiment l'architecte de cette équipe-là. Et il va chercher des joueurs. Enfin, je veux dire, il se trompe tellement rarement, il va chercher des joueurs qui permettent en fait au coach d'avoir une équipe cohérente. Et moi, je trouve cet homme assez formidable, quoi. Vraiment extraordinaire dans sa manière de façonner ses équipes.
C'est beau finalement du coup que l'Inter revienne au premier plan avec un Juventino en dirigeant et un entraîneur Juventino en 2019. C'est quand même marrant, c'est quand même marrant, c'est quand même un peu le comble pour un.
Et Marotta, c'est son 10e titre d'ailleurs. Donc il a son étoile personnelle. Donc c'est vrai que ça montre un petit peu l'importance qu'il a dans le panorama du foot italien.
Et il était déjà très très bon à la Sampdoria avant d'aller à la Juventus. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui manquera beaucoup au foot parce qu'il a déclaré qu'après son contrat à l'Inter, il ferait autre chose. Et moi, je regrette déjà beaucoup, beaucoup son départ parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui mériterait qu'on parle plus de lui.
C'est 2027, effectivement, son départ. Après, ce sera soit politique, soit s'occuper du football chez les jeunes. On verra. Il y a plusieurs pistes pour lui, mais c'est vrai que bon, il y a encore 3 ans à l'Inter. 2027, on y reviendra sur l'Inter. Ce sera forcément une date butoir pour plein de sujets. Un dernier petit mot sur l'ambiance, puisque c'était un match accueilli par l'AC Milan. Final, le stade était à 50-50 à peu près. Je pense que vous l'avez senti, que ce soit à la télé ou toi, Daniel, en commentant. Moi aussi, j'y étais. C'est vrai que au stade, enfin voilà, c'est vraiment du moitié-moitié, c'était impressionnant, pas mal de. Alors que la vente était réservée aux supporters de l'AC Milan qui avaient la carte de quoi, Lo Sonello, donc la carte de tifoso de supporters. Pas mal de places ont été revendues, pas mal de billets en PDF ont eu des changements de nom. Pas mal de supporters de l'Inter ont acheté la carte aussi. Enfin voilà, ça a donc permis d'avoir ce stade à 50-50. Et même au niveau de l'ambiance, on le disait au niveau des joueurs tout à l'heure, je sais pas ce que tu en penses, Daniel, mais. Au niveau de l'ambiance aussi, on sentait un public un peu résigné au niveau de l'AC Milan. Alors, très, très, très beau tifo de la courbe sud sur le, on va dire, 19 plus 1, on va dire, de l'Inter, la deuxième étoile. L'Inter qui répondait forcément aussi sur ce thème-là de la deuxième étoile. Mais voilà, au niveau de l'ambiance, on avait presque l'impression que c'était un derby, en fait, à la maison pour l'Inter, au niveau du bruit, au niveau de la ferveur.
Oui, mais je veux pas trop m'attarder là-dessus. En fait, c'est exactement ce que tu as dit. Les fans avec qui j'ai parlé étaient résignés, avaient peur, avaient surtout peur d'offrir ce scudetto à l'Inter. J'ai parlé avec aucun fan, pourtant j'ai discuté quand même avec allez, plusieurs dizaines de tifosi. Aucun ne m'a dit ce soir l'Inter ne va pas gagner le scudetto, j'ai confiance, je la sens bien. Tout le monde me disait, voilà, pourvu que ça n'arrive pas, j'ai peur, je suis inquiet, etc., etc. Et c'était assez anxiogène, hein, comme ambiance finalement côté Rossonero.
Et bon, passons aussi raison de féliciter ceux qui ont été au stade, mine de rien, parce que c'est, on va dire, c'est une vraie
C'est
preuve
vrai.
d'amour envers son équipe d'aller au stade en sachant que tu vas un peu à l'abattoir, en quelque sorte. Parce que voilà, tu y vas parce que tu aimes ton club et tu sais que tu vas sûrement, t'as grande chance de souffrir. Donc c'est ceux qui sont venus, ceux qui ont encouragé, c'est beau. Même ceux qui sont partis après le but de Thuram, parce que le stade s'est déjà un peu vidé à ce moment-là, on
Ouais,
peut les comprendre
ça
aussi.
va, ils sont pas supporters du Havre non plus, hein, on va pas leur tresser des lauriers, hein. Et venez au stade Océane, vous allez voir ce que c'est que la souffrance, les gars.
Venez faire un Le Havre-Metz, on en reparlera.
Tu
Voilà,
veux
on
qu'on
va
parle de
le
Le Havre
Havre-Metz.
Metz. Le T ne se prononce pas pour Metz, un peu de respect pour la Lorraine, même si j'en ai que très peu pour Metz.
C'est un ancien qui nous le dit, donc je te crois sur parole. Non, mais là-dessus, Raphaël et Anto, rapidement, mais là-dessus, c'est vrai que le côté, quand tu es supporter et tu sais qu'il y a de grandes chances que quelque chose d'historique se passe contre ton équipe, y aller, mais même être présent de votre part ce matin, enfin voilà, c'est quand même preuve de courage.
Moi, j'étais déjà là au 5-1, j'étais là-bas sur place et j'étais là pour le podcast. Pour moi, ça ne change rien à ma foi milaniste. Je suis très fier d'être milanais et je suis très content de les supporter. Et je n'éprouve aucune envie particulière d'être interiste. Ça fait partie du cycle du football. Je me concentre plus sur mon équipe que je supporte que sur les autres, au-delà de tout ce qui peut se passer. Et ça fait partie du sport, on ne peut pas toujours gagner, hein. Donc bon, et comme me disent la courroie soude, 19 sur le terrain. Mais bon, on sait qu'il y en a eu un qui a été un petit peu donné en 2006. Après Calciopoli, le titre qui a été donné en 2 semaines. Donc bon, on peut jouer là-dessus aussi. Hein. Moi, ça me fait rigoler. C'est du folklore. J'ai pas de. Ça reste du football, ça reste de l'amusement. Après, comme j'ai dit, moi j'ai une vue un peu plus virile du football. Hein. Moi, je suis pas. Je pense que vous l'avez compris. Donc moi, ça me dérange pas. On se verra l'année prochaine. C'est pas un problème.
Moi, je suis beaucoup plus amer sur la défaite contre la Roma jeudi dernier que ce matin, post-derby. Parce que le championnat, on sait qu'il était joué déjà depuis plusieurs mois. En revanche, là où tu pouvais atteindre des objectifs, c'était en Europe ou en Coupe d'Italie. Et tu perds au final contre deux équipes qui sont moins bien classées que toi au classement en Serie A, qui sont l'Atalanta en Coupe d'Italie et la Roma en Ligue Europa. Et moi, c'est là où j'ai ce souci pour cette saison du Milan qui est au final assez réussi en Serie A puisqu'ils sont à plus de 2 points par match, deuxième, ok, mais pour moi tu dois faire bien mieux contre des adversaires à ta portée en Ligue Europa et en Coupe d'Italie. Donc je rejoins totalement Antoine, moi hier si j'avais été à Milan, si j'habitais là-bas, j'aurais été au stade, même en sachant que tu vas à l'abattoir, comme on dit. Ce matin, je suis présent parce que bah, c'est important de livrer aussi le sentiment d'un supporter du Milan à la suite d'un derby perdu et d'un titre de l'Inter. Mais comme dit Antoine, moi j'ai pas peur de l'avenir. Au contraire, je suis assez, j'ai hâte des saisons qui viennent parce que j'ai confiance en les joueurs du Milan. J'ai confiance en un recrutement cet été qui, j'espère, va être bon comme l'été dernier il l'a été.
En Zlatan.
Voilà, j'ai confiance en Ibrahimovic, comme tu le dis justement, Antoine. Je sais que c'est un amoureux du club qui va prendre des décisions qui seront bonnes. Et il y a, voilà, c'est des cycles. L'Inter ne pourra pas refaire la saison qu'ils viennent de faire cette saison. Enfin, pour moi, je ne pense pas que ça pourra se rééditer. Et forcément, il y aura un coup à jouer l'année prochaine.
Et pour terminer juste sur l'ambiance aussi post-match, voilà, il y a forcément eu la fête au Duomo dans plusieurs lieux de la ville. Donc déjà pour quitter le stade, pareil, il n'y a eu aucun problème. Et c'est aussi ce qui est beau dans le derby de Milan, c'est que même avec de telles tensions, parce que enfin voilà, j'ose pas imaginer un derby de Rome qui délivre le titre à la Roma ou la Lazio se passer comme ça. Peut-être que je me trompe et j'espère me tromper, mais voilà, je pense que le derby de Milan est aussi beau pour ça. C'est qu'il y a la rivalité sportive, mais depuis maintenant 40 ans au moins, il n'y a plus de problème, on va dire. Et c'est une belle chose. Et c'est voilà, même en ville, après le match, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de. Enfin voilà, ça s'est bien passé. Donc c'est aussi à signaler. Quand ça se passe bien, c'est bien de le dire aussi.
La prova, difende il pallone. Cerca e trova l'off-to-cheek, prova ancora l'off-to-cheek, altra apertura, Musa, manovra volgente, il piazzato Sommer!
Daniel, un dernier petit mot sur le match, après on basculera sur la journée, mais tu es Suisse, un Suisse est champion d'Italie, Yann Sommer, tu l'as un petit peu évoqué par moment, ça faisait partie des questions de l'été, parce que Onana avait fait une très très grosse deuxième partie de saison, et avait été important dans le parcours en Ligue des Champions, jusqu'à la finale, vendu plus de 50 millions d'euros pour la Manchester United, et tout de suite l'Inter avait ciblé Sommer. Négociations qui ont été très très longues, le gardien lui-même qui a dû faire des efforts pour venir, c'est un petit peu le même cas pour Benjamin Pavard du même club, le Bayern Munich, pour rejoindre lui aussi l'Inter. Parenthèse, gros gros match de Benjamin Pavard hier soir, passeur décisif,
oh là là, oui,
sur le but, puis la façon dont il a tenu Léo, enfin, il y a un retour en fin de première période qui est assez exceptionnel, mais voilà. Mais sur Sommer, parce que lui aussi, moi je trouve il a prolongé une sérénité à sa façon, complètement différente d'Onana, mais une vraie sérénité à sa défense rapidement cette saison.
Mais oui, mais en arrivant, il a déjà dit qu'il se sentait très serein et très protégé dans ses buts parce que la défense de l'Inter est très très forte. Et bah, il a amené de la sérénité, lui aussi, il a amené. Bah, pour moi, après, on peut être d'accord ou pas, mais tu gagnes largement au change quand tu arrives à vendre Onana. Là à prendre Sommer, tu gardes un gardien fort au pied, tu as un gardien plus petit peut-être qui est moins bon dans les sorties. C'est toujours ce qu'on dit ici en Suisse, Sommer sur les sorties, sur les balles aériennes, mais sur sa ligne, il est incroyable dans la lecture du jeu, il est incroyable dans la sérénité qu'il peut amener aussi. Il est très fort. Bah c'est un gardien qui ne gagne pas le titre de Bundesliga avec le Bayern la saison précédente et puis le titre avec l'Inter pour rien. Tu ne gagnes pas des titres au hasard. Et là, il pourrait battre les records de Buffon et d'autres gardiens de Provedel, enfin d'autres gardiens qui ont pris 21 goals en une saison de Serie A. Et ça non plus, c'est pas un hasard. Tout n'est pas obtenu que grâce à lui, aussi grâce à sa défense. Mais encore une fois, quel fin nez d'être allé le chercher de la part de Malotte.
C'est vrai que ça fait partie des coups pour le présent, parce qu'effectivement, il y a une grosse plus-value et il a assuré pour 2-3 années voilà, d'avoir un gardien de très très bon niveau, répondant aux caractéristiques demandées par Simone Inzaghi, le duo qui fonctionne de mieux en mieux, clairement, entre Beppe Marotta et Simone Inzaghi. Messieurs, en 2-3 minutes rapidement, on va quand même finir cet épisode sur la 33e journée, puisqu'il y avait 9 autres matchs. Que vous dire que la Juve eh bien, a frôlé la défaite contre Cagliari. Cagliari, c'est pas mal depuis quelque temps. Il y avait déjà eu ce nul contre l'Inter en remontée. Cette fois-ci, c'est le contraire. Ils menaient 2-0, puis ils ont craqué. Et la Juve est revenue à 2-2. Mais Cagliari bien. Empoli très bien. 1-0. Succès contre le Napoli. Déjà, à l'aller, Empoli s'était imposé et ça avait coûté la tête de Rudy Garcia. Cette fois-ci, bien un nouveau succès. Comme quoi, les changements d'entraîneur, ça ne fait pas forcément effet. Sassuolo, on en parlait tout à l'heure, Daniel, justement, sur la façon ils avaient battu l'Inter. Ils ont aussi battu la Juve cette saison. Ils viennent de perdre 3-0 contre Lecce. Ça sent de plus en plus la série B pour eux. Je voulais avoir ton regard, Daniel, principalement sur Bologne, qui vient de s'imposer 3-1
Ah.
sur la pelouse de la Roma. C'était aussi ce lundi. 3-1 sans Ferguson, le milieu écossais, qui est un petit peu le maître à jouer de cette équipe, qui s'est blessé, qui ratera l'Euro d'ailleurs, avec Xerxes de retour. Depuis 3 semaines, qui fait un but et une passe décisive, et ce Bologne de Thiago Motta qui va tout droit vers la Champions League.
Salemakers, anche Lazzuzzi a proporsi, petto, Zirkzee, dribbling, Zirkzee, sfila, palla che rimane lì, Doi, palla sulla linea e palla che è entrata, il gesto di Maresca è netto, è chiaro, dopo un minuto e mezzo quasi di possesso palla del Bologna.
Et avec Ndoye, avec Ebischer, avec Freuler, les trois Suisses.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, non, mais ils sont géniaux à avoir joué aussi. Bah voilà, on a parlé de la beauté du jeu de l'Inter tout à l'heure. Que dire du jeu de Bologne? C'est tellement beau à voir aussi. Et peut-être qu'on s'extasie un peu trop sur le jeu proposé par Thiago Motta, parce qu'il faudra évidemment confirmer tout ça la saison prochaine. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de le voir partir tout de suite, parce que ça parle de lui à la Juve, et ça parle de lui dans d'autres clubs. Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de la saison de la confirmation, justement? Parce que Pour le moment, il fait tout juste. Effectivement, il y a Zirkzee qui est formidable. Moi, je parle beaucoup avec Dan Endoy, qui m'explique aussi comment ça se passe dans le vestiaire, qui me dit comment l'équipe, comment elle vit bien, comment il y a cet enthousiasme aussi dans tout ce qu'ils font ensemble. Ils sortent beaucoup, ils vont beaucoup voir la Virtus Bologne en basket. On voit qu'il se passe quelque chose dans cette équipe. Mais après, est-ce que la saison prochaine, quand il y aura eu des départs, est-ce que ça pourra fonctionner de la même manière? Parce que j'imagine pas dire que c'est resté à Bologne, même s'il y a Champions League au bout. C'est un joueur qui est ambitieux, qui veut aller jouer ailleurs, qui veut jouer plus haut. Mais est-ce que plus haut, ce sera à un niveau qui lui correspond? Parce que le Bayern ne l'a pas gardé. Quand le Bayern ne garde pas des joueurs, ne le rachète pas, parce que Bayern peut le racheter à 40 millions. Ça pose des questions quand même, mais ouais, je trouve cette équipe tellement fraîche et tellement agréable à regarder dans tous les secteurs de jeu.
Tu disais le mot fraîche, c'est vraiment rafraîchissant de voir Bologne quatrième de Serie A qui a de très grandes chances du coup d'être Ligue des Champions puisque l'Italie aura 5 places lors de la prochaine Ligue des Champions. On en parlait dans le précédent numéro, c'est désormais officiel. Donc c'est vrai que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Nicolas, en 2 mots, on a envie de voir ce Bologne qui rappelle peut-être un petit peu un football presque, on ne va pas dire avant Bosman parce que c'est une équipe avec beaucoup d'étrangers, mais un petit peu ce côté où il y avait un petit peu plus d'incertitude. Et voir en Bologne en Ligue des Champions, c'est vrai que ce serait beau avec ce groupe-là parce que. C'est vrai que s'il y a beaucoup de départs, on pourrait voir en Bologne du coup être dans les dernières places de Ligue des Champions et souffrir la saison prochaine.
Oui, mais j'espère que Thiago Motta prendra l'exemple sur Xabi Alonso et qu'il restera une année supplémentaire à Bologne pour amener son projet jusqu'au bout et de pouvoir faire la Ligue des Champions avec Bologne, justement, je pense que ce sera historique, une qualification en Champions League. Je sais pas depuis combien de temps ils n'ont pas joué à la compétition. C'est peut-être même la première fois qu'ils vont la disputer.
Et oui, ben oui, il y a eu la période Coupe d'Europe pour Bologne, mais effectivement, Ligue des Champions, je ne pense pas. En tout cas, bon, la version actuelle, non. Il faudrait rechercher pour la Coupe des clubs champions, mais.
Mais ça va être intéressant, hein, parce que on parle de Bologne, il y a Gérone en Espagne, il y a Brest en France, toutes ces équipes-là. Il faudrait pas que ce soit des équipes qui passent à côté de leur rendez-vous la saison prochaine en Champions League, parce que sur le papier, c'est des équipes, malgré la nouvelle formule de la saison prochaine, on va pas se perdre là-dedans, mais il y aura une nouvelle formule. Mais ça peut aussi être ce genre d'équipe qui finirait avec des valises à chaque fois.
Ouais, mais quoi qu'il en soit, c'est un formidable pied de nez à la Super League de voir que le mérite sportif a encore sa place et que des petites équipes comme Brest, comme Gérone en Espagne, même s'ils sont dans le groupe City,
Oui, voilà.
peuvent accrocher cette compétition et que ça soit pas forcément tout le temps des équipes huppées et qui, pour des fois, ne le méritent pas forcément. Donc, c'est intéressant de voir ces équipes-là, ça change.
Ce serait un pied de nez seulement si les joueurs de ces équipes-là ne partaient pas cet été. Et
C'est ça.
malheureusement, ça va être le cas. Parce qu'en fait, comme tu appelles la Super League, donc les gros clubs européens, ils vont s'emparer de ces joueurs-là, de ces coachs-là. Et au final, pour moi, c'est ça la force. Et au contraire, je suis contre ce que tu viens de dire, parce que pour moi, c'est ce qui prouve qu'il y a une supériorité et que la Super League va gagner, entre guillemets, parce que dès qu'il y aura des bonnes équipes comme ça, on va s'engouffrer autour. Et elles vont disparaître.
Bah non, parce
Frédéric,
que regarde, le Bayern le fait depuis des années avec tous les joueurs allemands. Dès qu'un joueur allemand brille dans un club, il est récupéré par le Bayern.
et ils sont
Et
champions tous les ans. Et ils sont champions tous les
oui,
ans, à
mais
part cette
pour
année.
autant,
Enfin...
ça n'empêche pas d'avoir un Dortmund demi-finaliste cette année. Donc
Ouais.
voilà. Mais
Oui,
moi,
mais
je suis surtout,
Dortmund,
c'est
c'est
pour
pas
le mérite
Brest, hein.
sportif. Oui, mais je suis pour le mérite sportif. Si une équipe mérite d'être en Champions League, peu importe qu'elle s'appelle Brest, voilà, c'est s'ils
Complètement.
l'ont gagné
Et
sur
moi,
le terrain, c'est mérité.
je suis totalement d'accord avec toi, tu le sais. Simplement, quand Cédric parle tout à l'heure, te pose la question en disant ce Bologne, bah, ce Bologne, oui. Moi, j'aimerais bien que ce Bologne soit encore là l'année prochaine. Malheureusement, on le sait,
Oui, mais
ce ne sera pas ce Bologne, ce sera Bologne. Et ce ne sera
on
pas Thiago
connaît
Motta, et
comment
il n'y aura
marche le
pas
foot.
Zirkzee.
Tu débarques pas dans le monde du
Non,
foot, Raphaël. Tu sais très bien
non,
que
je sais.
les joueurs sont soumis et les entraîneurs sont soumis à des offres, et que c'est parfois difficile
Bien
de
sûr.
rester dans un club, alors que même pour autant, tu es attaché à ce club, mais quand on te propose plus d'argent ou un projet encore plus attractif, tout le monde a vocation à monter
Ah ben
l'échelle
bien sûr.
sociale et pas à la redescendre.
Bien sûr, et je suis très content pour Bologne, très content pour Brest, parce qu'ils méritent la place où ils sont aujourd'hui. Et j'ai peur que cet été, ils se fassent dépouiller et qui. Alors bien sûr, ce sera le cycle du foot. Mais quand on parle de ce Bologne, c'est ce Bologne le 23 avril. C'est pas le Bologne du 15 juillet ou du 1er septembre, qui pour moi sera pas ce Bologne, mais juste un nouveau Bologne avec un nouvel entraîneur, avec un nouvel attaquant qui sera plus Zirkzee, avec peut-être un Lewis Ferguson ou un Calafiori qui seront plus là, etc. Donc j'ai peur pour eux. Après, je suis très content qu'ils soient là.
On va faire confiance, on parlait de Marotta tout à l'heure, on fera confiance à Sartori au niveau de Bologne qui sûrement arrivera à faire une belle équipe en tout cas. Et on va souhaiter aussi que Zirkzee reste en Serie A comme Thiago Motta, au moins de ne pas les perdre comme on a perdu un De Zerbi par exemple. Dernier petit mot très rapide en 2 minutes parce que c'est un sujet qui intéresse Anto, on en reparlera prochainement. Daniel, l'Euro, puisque je sais que tu suis aussi beaucoup la nationale et l'Italie. Est-ce que tu crois à un doublé à l'Italie qui conserve son titre ou ça va être compliqué selon toi?
Non, 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 non. Non, ce qu'a fait Mancini avec l'Italie, ça reste un truc exceptionnel, un truc à part, et ça doit le rester. Là, je vois pas l'Italie faire le doublé. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà au moins trois places qui t'emmènent plus loin dans la compétition, puisqu'il y a plus d'équipes. S'il avait fallu terminer dans les deux premiers, je suis pas sûr que l'Italie serait parvenue. Là, tout à l'heure, je parlais avec un tifoso qui demandait le retour de Balotel. Moi, je l'ai vu ici en Suisse l'année passée. Je crois que c'est très très bien qu'il reste là où il est. J'ai confiance en Scamacca et en Retegui parce qu'il n'y a pas mieux. Ça, ce sera les numéros 9 de la nationale. Au milieu de terrain, je me fais pas trop de soucis. Derrière, un peu plus. Au but aussi, je me fais du souci parce que je suis pas convaincu de Donnarumma. Et voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de limites et non, le doublé est impossible. Mais je suis très mauvais pronostiqueur, je vous le rappelle.
Bon, mais ça nous garde un petit peu d'espoir. Ultime question, puisque tu suis aussi bien sûr le championnat suisse, puisque tu viens suisse, tu es journaliste suisse. Pafundi, ça c'est pour Nicolas, puisque il vient de l'Oudinese. Il a été prêté avec option d'achat à Lausanne. Comment ça se passe? Parce qu'on parlait beaucoup de lui en Italie, Mancini l'a convoqué en sélection. Il avait même dit à un moment donné, ma liste, je mets Pafundi et les autres. Ce qui était enfin, bon, un choix de communication assez étrange, pour ne pas lui mettre de pression du tout, quand même. Mais comment ça se passe pour lui en Suisse?
Ça se passe très bien, ça se passe très bien. J'ai eu la chance de commenter son premier but en pro dans un derby contre Servette, que Lausanne avait perdu d'ailleurs. Ça se passe bien, j'ai échangé avec lui encore la semaine dernière avant le match contre Zurich. Bah, c'est un joueur qui sent le foot, hein. On a beaucoup de chance d'avoir des joueurs comme lui. On a lui, on a Garbi aussi du PSG qui joue dans l'autre équipe de Lausanne. C'est un joueur qui... Bah, est arrivé en prêt et qui va très probablement pouvoir être acheté par le groupe Ineos, qui après en fera ce qu'il en veut. Ça passera soit par Nice, ça ira peut-être directement en Angleterre à Manchester United. Bah ouais, c'est un joueur qui est au-dessus du lot, mais qui est encore un ado ou pas encore un homme et qui se heurte à des hommes ici en Suisse. Dans le sens où dans les duels, c'est encore un peu léger, mais techniquement, c'est un joueur phénoménal. Il sait faire des choses que d'autres joueurs ne savent pas faire. C'est un régal de le voir jouer.
Oui, moi je voulais te poser une petite question, Daniel. Est-ce que tu aurais un ou deux noms de joueurs suisses que tu pourrais envisager par leur profil ou par leur qualité ou leur talent? Est-ce que tu pourrais nous en citer qui pourraient rejoindre un grand club italien l'année prochaine? Pas forcément des joueurs qui jouent en Suisse, mais des joueurs de nationalité suisse.
Là, en fait, en Suisse, on parlait beaucoup de Yachari, Ardon Yachari, qui joue à Lucerne, mais qui va finalement aller jouer à Bruges. Ça, c'est un joueur très très talentueux qui mérite qu'on garde un
C'est quel
œil.
poste?
Milieu de terrain. Milieu de
Okay.
terrain, Ardon Yachari. Il est allé au Qatar, en fait, avec l'équipe de Suisse à la Coupe du Monde. Il a peu joué, mais c'est un joueur vraiment. Vraiment très très intéressant. Et Je trouve très intelligent d'avoir fait le pas belge et ne pas aller directement dans un top 5 comme a pu le faire par exemple Andy Zekeri qui jouait aussi à Lausanne, qui était parti de Lausanne de la Challenge League, donc la deuxième division, enfin de la Super League, pardon, parce que Lausanne venait de monter, mais lui il est parti très vite à Brighton. Il a été un peu prêté partout, à Augsbourg, ensuite à Bâle. Alors que à la base, avant d'aller à Brighton, il s'était mis d'accord avec Parme. Donc ça aurait été une très belle destination parce que Parme était à ce moment-là en série B. Un autre joueur, alors qui est pas en Suisse, mais qui est international suisse, mais vous le connaissez forcément, c'est Zeki Amdouni, qui joue lui en Angleterre. Je sais pas ce qu'il fera la saison prochaine, mais c'est un joueur très 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 intéressant aussi.
Eh bien, c'est des joueurs qu'on suivra, pourquoi pas, effectivement, en voir certains arriver en Serie A. Parce que tu parlais aussi de ceux qui sont à Bologne, on a parlé de Sommer, c'est vrai qu'il y a un petit contingent de joueurs suisses qui font de belles choses en Serie A. Daniel Romano, journaliste à Blue Sport, commentateur des affiches européennes et notamment de la Serie A. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel.
Merci pour l'invitation.
C'était un vrai plaisir. Merci aussi à mes compères de Ponto Calcio. Nicolas Wagner, Antoine Aguilo et Raphaël Gauthier. Merci, messieurs.
Merci Daniel, merci Cédric, à bientôt.
Merci à vous. Et juste pour dire que le 22 avril, donc hier, puisqu'on enregistre le 23, c'est en plus du titre de l'Inter, c'est surtout l'anniversaire de Ricardo Kaká. Ballon d'or 2007 et immense joueur.
Tu sais que j'ai pensé à toi hier en plus, en avant-match. Vraiment, parce que j'ai vu le maillot de quelqu'un qui avait le maillot de Kaká et en
Ah,
allant au
c'était
match.
peut-être le mien.
C'était
C'est peut-être le
peut-être
tien
le
qui a
sien,
perdu,
oui.
mais c'est peut-être que le tien que quelqu'un t'a volé honteusement
À Casa Milan.
à Casa Milan avant le match de Milan en septembre. Donc c'est bien possible. Bon, on se quitte. Merci beaucoup pour ce 80e épisode de la saison de Ponto Calcio. Vous pouvez bien sûr retrouver le catalogue sur toutes les différentes plateformes de podcast comme Spotify, etc., etc. Vous le savez. Et puis nous, on se quitte avec un petit peu de douceur. Avec une chanson Lucia San Siro de Roberto Vecchioni et un cuore nell'azzurro. Merci à tous de nous avoir suivis. Les lumières de ce podcast s'éteignent, mais se rallumeront dans une semaine. Ciao, ciao.
Luci a San Siro non ne accenderanno più.